Le sophisme, consistant à sortir quatre versets de leur contexte parmi des milliers d'autres car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le texte en bleu clair ou en bleu clair en gras peut être cliqué, pour renvoi à l'écriture ou pour des détails dans les écrits. Sophisme 1, quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle, Jean 3, 16, sorti de son contexte avec les versets adjacents. C'est le verset le plus souvent cité de la Bible, mais il est cité hors contexte, sans les versets compagnons qui en précisent le sens, au point qu'il devient totalement l'opposé de la manière dont les gens l'interprètent lorsqu'on le considère isolément. Beaucoup appellent ce verset une Bible entière à lui seul. Malheureusement, ils ont tort, ils ignorent les exclusions, les exigences et les conditions qualificatives du salut, toutes choses qui peuvent être remplies par une foi motivée et active. Examinons plus loin tous les versets, Jean 3, 15-21 dans leur contexte avec ce verset célèbre, ce qui change complètement l'interprétation traditionnelle, mais erronée, Jean 3, 15 afin que quiconque croit en dépend de ce confiant, obéit à lui et la vie éternelle de Dieu. Même les démons croient que Jésus est le Fils du Dieu très haut, et ils tremblent. Il ne suffit pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu, vous devez vous exposer pour entendre ses commandements prononcés et croire en lui avec persévérance, comme l'atteste votre obéissance. Vous pouvez avoir la vie éternelle si vous attendez Dieu patiemment et avec persévérance dans un silence humble, si vous croyez aux commandements anonymes et prononcés de Jésus que vous entendez, puis si vous obéissez à ce qu'il commande, de sorte que vous entriez finalement en union avec lui. De la parole du Seigneur au-dedans, quelle est la preuve de ta foi, la foi opérante? Devons croire suffisamment pour chercher à écouter, entendre et obéir à la voix de Dieu, et la preuve de notre foi est de produire le fruit de l'Esprit, montrant ainsi que nous sommes de véritables disciples du Christ. Et le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, quiétude et confiance assurée pour toujours, patient y compris longanimité, fermeté et persévérance, bonté y compris moralité et intégrité, bienveillance, foi, douceur y compris mansuétude et humilité et maîtrise de soi, domination des appétits sensuels. Galates 5, 22-23. Les branches qui ne produisent pas de fruits sont jetées au feu pour être brûlées. Jean 15, 6, Matthieu 7, 19. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, chaque homme qu'il a donné son Fils unique à chaque homme, afin que quiconque croit en dépend de ce confiant, obéit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il ne suffit pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu, même les démons croient que Jésus est le Fils du Dieu très haut, et ils tremblent. Vous devez croire ce que Jésus, la lumière et la parole au-dedans de votre cœur, vous montre et vous dit, croire ce qu'il vous dit et vous montre, c'est croire en Jésus. Le Christ est la lumière donnée à chaque homme afin qu'il puisse croire. Jean 1, 1, 4, 7, 9. Croire, c'est croire ce que vous l'entendez vous dire, croire suffisamment pour prêter attention à Jésus et lui obéir, lui qui est la parole de Dieu et la lumière de la parole dans le cœur de chaque homme, qui vous reprend anonymement, vous êtes tout homme de péché. Comme le disent les versets compagnons ci-dessous, 19, 20, 21, « Et voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, chaque homme, mais les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Car quiconque fait le mal, commet des péchés, est la lumière et est donc le Christ, qui est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées et reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, effectuées, formées, suscitées, animées par Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est avoir perdu votre vie charnelle, en ayant cru et obéi avec persévérance aux commandements prononcés de Jésus, jusqu'à entrer en union avec lui, puis obéir à ses œuvres ordonnées pour sa gloire et votre joie. Jean 3, 17 « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde chaque homme pour condamner le monde chaque homme, mais afin que le monde chaque homme soit sauvé par lui. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. » Luc 9, 56 « Être sauvé, c'est être libéré de tout péché, même le désir de péché est ôté. » Jean 3, 18 « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas ne dépend pas de... » Ne se confie pas en, n'obéit pas et déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ceux qui l'ont reçu dans la lumière, croyant en son nom, ont le pouvoir de devenir fils de Dieu, Jean 1, 12. Mais il faut exercer ce pouvoir en attendant, écoutant, entendant, croyant et obéissant de manière répétée à Christ, la parole et la lumière au-dedans de votre cœur. Le simple fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu ne permet pas d'échapper à la condamnation. Même les démons croient que Jésus est le Fils du Dieu très haut, et il tremble. Si vous péchez encore, vous vivez dans la condamnation qui est venue sur tous les hommes lorsque Adam est tombé et a perdu la vie de Dieu. Sortir de la condamnation, c'est être libéré de tout péché, être en communion avec le Fils et le Père, et manger de l'arbre de vie, avec Jésus comme votre véritable Seigneur, fournissant toutes vos paroles prononcées et dirigeant tous vos actes. Le christianisme, d'autres dieux y est un ennemi de la croix, enseignant faussement que la croix n'est pas nécessaire, et ainsi leurs croyants continuent à pécher et demeurent esclaves du péché, Jean 8, 34. La seule croix du christianisme n'est qu'une décoration, accrochée au mur ou portée comme bijou. Le christianisme laisse les gens vivre dans les convoitises de leur chair, accomplissant les désirs de la chair et les pensées de leur esprit. Comme le reste des hommes, ils sont laissés à leur nature pécheresse marchant selon la chair, dont l'objectif est de satisfaire les choses de la chair, dans leurs convoitises, désirs, affections, plaisirs, orgueil, colère, vanité, peur, inquiétude, projet, etc. Ils sont laissés à marcher selon les voies du monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan. Éphésiens 2, 3. Si vous mourrez en péchant encore, vous êtes exclus du ciel. Jean 3, 19. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde chaque homme, mais les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tous les hommes ont une petite mesure de la lumière Christ, qui brille dans les ténèbres au-dedans de pour exposer le mal dans leur cœur, tandis qu'elle les supplie anonymement de se détourner de leurs voies égoïstes et mauvaises. Mais les hommes, aimant leurs mauvaises voies, ignorent les douces supplications de Dieu et demeurent ainsi dans les ténèbres, commettant le péché, marchant selon leurs pensées charnelles et leur imagination mauvaise. Si nous ne croyons pas et n'obéissons pas à ses paroles, lorsque nous mourrons au dernier jour, nous nous souviendrons des paroles de celui qui nous suppliait de nous éloigner du mal, et ses paroles nous jugeront, Jean 12, 48. De la parole du Seigneur au-dedans, tous les hommes sont sans excuse, si je me taisais, ils auraient une excuse. Jean 3, 20. Car quiconque fait le mal commet des péchés et la lumière et est donc le Christ, qui est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées et reprises. La vraie lumière est donnée à tout homme qui vient dans le monde afin qu'il puisse croire. Jean 1, 7, 9. La lumière brille dans les ténèbres, mais les hommes ne comprennent pas que c'est le Christ qui résonne anonymement avec eux, cherchant à montrer et reprendre aux hommes leur mal. Jean 1, 5 et 5, 13. Aimant leur vie égoïste et haïssant la lumière, qui est le Christ, qui tente de les corriger et reprendre, les hommes égoïstes fuient la lumière, le Christ, et demeurent ainsi dans la condamnation, marchant dans les ténèbres, continuant à pécher, accomplissant les convoitises et les désirs de leur chair. Quiconque continue à faire le mal péché aime les ténèbres et est condamné, quoi qu'il puisse penser croire. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres mauvaises ne soient exposées et reprises jugées. Il veut continuer son mode de vie égoïste, sa vie de mal, et il rejette donc et est la lumière qui est le Christ. Il aime les ténèbres où ses œuvres ne sont pas exposées comme mauvaises, il rejette donc la lumière et est la lumière qui est le Christ. Comme les démons, il peut penser que le Christ est le Fils de Dieu, mais parce qu'il aime son mode de vie et est la conviction que la lumière en apporte, il se retire de la lumière dans le confort des ténèbres, où il n'y a pas de désapprobation, et il demeure ainsi condamné. Quoi qu'il dise croire de sa bouche, ses actions trahissent ses paroles. S'il croyait en la lumière, il obéirait à la lumière. S'il croyait à la vérité des supplications anonymes du Christ, il obéirait au Christ. Croire, c'est obéir. L'obéissance conduit au salut. L'obéissance conduit à la justice. Jean 3, 21. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et rendues possibles par Dieu. Ceux qui font l'expérience du retrait du péché de leur cœur par l'Esprit aiment la lumière et viennent avec empressement à la lumière pour une destruction plus complète du péché. Ceux qui ont été libérés du péché viennent avec empressement à la lumière afin d'être dirigés par Dieu pour faire des œuvres d'amour, pour leur joie et la gloire de Dieu, car nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Un homme vient à la lumière en attendant Dieu dans un silence humble, en observant et en écoutant dans l'espérance d'un changement par Jésus. Ceux qui viennent à la lumière aiment Christ, comme en témoigne leur obéissance à la vérité de ce que la lumière et la parole leur révèlent, et ils en viennent à voir davantage de lumière, qui les guide ensuite dans toutes leurs paroles et tous leurs actes. Mais une personne qui souhaite faire ce qui est juste, plaire à Dieu, se débarrasser du péché, acceptera la désapprobation de la lumière à l'égard de ses œuvres mauvaises et sera motivée à changer de conduite, à se repentir. Il croit que la lumière vient de Dieu, du Fils de Dieu, et aimant le conseil de la lumière, il obéit aux douces supplications, aux conseils et aux commandements que la lumière lui adresse. Lorsque vous considérez Jean 3, 16 dans son contexte, avec les versets qui y sont associés, son sens est totalement changé. De la parole du Seigneur au-dedans, il ne suffit pas de croire en Jésus, nous devons croire ce qu'il dit et ensuite agir en conséquence. Lorsque vous croyez ce que Jésus vous dit et que vous obéissez ensuite à ses commandements, vous suivez Jésus. Suivre Jésus, c'est obéir à ce que Jésus commande, c'est faire la volonté de Dieu tout en renonçant à votre propre volonté. Faire sa volonté dans l'obéissance est une croix pour votre volonté, c'est prendre sa croix, oubliée et manquante dans le christianisme d'aujourd'hui. Tant que vous ne portez pas la croix, vous n'êtes pas son disciple. Tant que vous ne portez pas la croix, vous n'êtes pas digne de lui. Le salut et la vie éternelle ne viennent qu'à ceux qui portent la croix intérieure du renoncement, à soi pour crucifier leur esprit égoïste et leurs pensées charnelles. La foi que les apôtres prêchaient n'était pas une foi extérieure, mais une foi intérieure. L'objet des deux fois est le même, mais leurs différences sont cruciales pour réaliser les promesses de Dieu. Les deux fois sont adhérer à l'histoire rapportée dans la Bible selon laquelle Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité des morts, monté au ciel, etc. C'est la foi biblique extérieure, entendre la parole de Dieu, laquelle parole est dans votre cœur pour être obéi. C'est la parole de la foi que les apôtres prêchaient. Entendre et obéir à Jésus qui vous parle du dedans de votre cœur, c'est la foi opérante, la foi intérieure, la foi que Jésus lui-même vous donne. Par une obéissance persistante aux commandements entendus de Dieu au-dedans de votre cœur, cette foi intérieure justifie, purifie, rachète, rend juste, sanctifie et sauve, pour vous donner paix, joie et justice en union et en communion avec le Christ et le Père, c'est voir et écouter votre bien-aimé, en menant une vie sainte qui lui plaît. George Fox a écrit au sujet de cette foi intérieure et de la concentration nécessaire, « Le Père est en vous tous, Christ est en vous, et le royaume des cieux est en vous, c'est là, dans vos cœurs, que vous les trouverez tous. Sachez qu'il est là, sont dans vos cœurs, et trouvez-le là, mettant à l'épreuve vos pensées et vos cœurs, prêtez l'oreille et écoutez-le là, lui qui rendra à chacun de vous selon vos paroles et vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour l'entendre vous parler, vous devez écouter en silence en attendant qu'il parle. Pensez au nom de Jésus, puis écoutez, observez et attendez. Si vous sentez votre esprit vagabonder, pensez au nom de Jésus et revenez à l'écoute, à l'observation et à l'attente. Ne vous découragez pas si vous n'entendez rien pendant un certain temps. Même votre attente vous est comptée, que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, selon notre attente et notre espérance en toi. Psaume 33, 22. Lorsque vous entendez, vous devez croire que c'est le Fils qui vous parle, croire que ce qu'il vous dit est vrai, puis obéir à tout ce qu'il commande. Faites cela de manière répétée, avec une consécration persistante, et vous serez délivré même du désir de péché, ce qui revient à recevoir le salut. De la parole du Seigneur au-dedans, s'asseoir dans un silence humble, en attendant le Seigneur, c'est porter la croix, au lieu de penser à la manière dont vous pourriez plaire aux autres. L'œuvre de la croix, c'est de s'asseoir dans la lumière et de regarder sa volonté. J'aurais tout aussi bien aimé éviter cette mort horrible, je l'ai fait pour vous montrer l'étendue de l'obéissance requise pour votre propre salut. Au cours de votre journée, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Dans ce processus où vous portez votre croix, votre péché disparaît progressivement, au-dedans et au-dehors, pour votre satisfaction. Les envies disparaissent à mesure que l'homme charnel diminue. Entendre et obéir est difficile, seuls ceux qui veulent être purs peuvent entendre. Comme les apôtres, vous aussi devez être purifiés. Pour l'entendre, l'homme doit décider comment il veut vivre, esclave de ses passions et de sa colère, ou libre. Devenir silencieuse est une préparation. Pensez à son nom. Quand vous vous asseyez et attendez, espérez la pureté, espérez le changement. Je te montrerai les péchés secrets de ton cœur. En attendant, même si vous n'entendez rien pendant un certain temps, cela vous sera bénéfique. Sachez qu'il œuvre profondément en vous. Attendez, espérez le Seigneur. Que ta miséricorde soit proportionnelle à notre attente et à notre espérance en toi. Celui qui croit a le témoignage en lui-même, 1 Jean 5, 10, et le témoignage est entendu et obéi, puis finalement vu. Quand vous prenez la croix quotidienne, en attendant Dieu avec persévérance et patience, entendant et obéissant à ses commandements, vous mourrez un peu chaque jour, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé dans votre corps. Vous voyez Jésus apporter votre salut, c'est-à-dire être délivré, libéré de tout péché. Croire n'est pas le salut, comme Paul le souligne 11 fois en s'adressant aux croyants des églises. Maintenant, notre salut est plus près que lorsque nous avons cru pour la première fois. Rome 13, 11. Continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Phil 2, 12. Car nous sommes sauvés par l'espérance, mais l'espérance que l'on voit n'est pas l'espérance. Qui espère ce qu'il voit déjà, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, alors nous l'attendons le salut avec une patience persévérante. Rome 8, 24-25. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. 1 5, 8. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Cor 1, 18. Pendant que vous êtes dans la croix intérieure du renoncement à soi, vous verrez le péché disparaître lentement de votre vie jusqu'à ce que vous soyez libérés du péché. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. 2 Cor 7 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4:30 « Paul parle à des croyants de l'Église qui n'ont pas encore été rachetés, c'est-à-dire sauvés. Car nous sommes la douce odeur de Christ pour Dieu, parmi ceux qui sont en train d'être sauvés. 2 Corinthiens 2:15 Nous devenons participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin le commencement de notre assurance. Hébreux 3:14 Car vous avez besoin de persévérance afin de faire la volonté de Dieu, et qu'ensuite vous receviez la promesse. Hébreux 10:36 Nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour parvenir, jusqu'à la fin, à la pleine assurance de l'espérance. Afin que vous ne soyez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux 6:11-12 Et Pierre fait écho au même message. Le salut n'est pas seulement croire ou la foi, le salut est plutôt l'aboutissement du parcours obéissant de la foi, et il exige une croissance, qui sont gardées par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. En cela vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit nécessaire de souffrir quelques peines au travers de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, aboutisse à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez, et bien que vous ne le voyez pas maintenant, mais que vous croyiez en lui, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant le but de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pie 1:5-9 Désirez ardemment, comme des nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin de grandir jusqu'au salut. 1 Pie 2:2 Jésus a dit à 5 des 7 églises de croyants dans l'Apocalypse qu'elles étaient perdues, en route vers la destruction. Les croyants de Smyrne allaient entrer dans la tribulation, et il les a encouragés. Seule l'église de Philadelphie allait bien parce qu'ils avaient gardé obéi à sa parole du dedans de leur cœur avec une patience persévérante. Remarquez encore, Jésus a dit que 5 des 7 églises chrétiennes de croyants étaient en route vers l'enfer. Une erreur massive avait déjà pris pied il y a 2000 ans, jusqu'à ce qu'aujourd'hui la fausse église soit omniprésente, la grâce étant prétendument une licence pour continuer à pécher, pourvu que vous croyiez. Alors, quand croire aboutit-il au salut? Jésus nous l'a dit lui-même, et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en dépend de ce confie en et obéit à lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, Jean 6:40. Ainsi, votre foi doit vous conduire à voir Jésus, le visage de Dieu. Lorsque votre foi vous amène à attendre Dieu avec persévérance, dans un silence humble, pour l'entendre et lui obéir, ces paroles que vous l'entendez vous dire vous communiquent la vie de Dieu, jusqu'à ce qu'enfin vous soyez pur et que vous voyez le visage de Dieu dans votre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8 Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui Jésus est pur. 1 Jean 3:3 Le salut, la pureté et la délivrance du péché se produisent lorsque vous faites l'expérience de la grâce de Dieu, Christ, vous les apportant. Lorsque Christ détruit en vous l'esprit égoïste par l'esprit de sa bouche et par l'éclat de sa venue, lorsqu'il écrase la tête de Satan sous vos pieds, Romains 16:20. Croire, c'est obéir. Si vous n'êtes pas obéissant, votre foi n'est qu'un hommage du bout des lèvres d'hypocrite. L'obéissance conduit à recevoir le Saint-Esprit. L'obéissance conduit à la justice. L'obéissance conduit au salut. Le faux salut instantané de la chrétienté, obtenu par un appel à l'autel et ou le baptême d'eau, est un mensonge colossal destiné à vous tromper. Lisez les petites lignes du contrat de Dieu, les avertissements d'exclusion, les exigences et les conditions qualificatives, pour en savoir plus sur ce qu'est la grâce, voire vraie grâce vs. fausse grâce. La foi n'est pas instantanée, c'est un processus de travail qui conduit au partage de la nature divine. Comme Pierre nous l'enseigne, des promesses infiniment grandes et précieuses nous sont données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Échapper à la convoitise, c'est n'avoir ni envie ni désir. C'est pourquoi faites tous vos efforts le maximum possible pour ajouter à votre foi la vertu, et à la vertu, la connaissance, et à la connaissance, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété, et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1:4-8 Il y a une grande différence entre ces deux types de croyances. 1. L'assentiment mental au fait que Jésus est le Fils vs. 2. Croire ce qu'il commande et conseille est suffisamment pour lui obéir. Il nous ordonne de chercher, comme priorité suprême de notre vie, le royaume de Dieu et sa justice, d'être parfait, de tendre l'autre joue, de venir à lui, de l'écouter et de lui obéir, de renoncer à soi-même et de prendre sa croix chaque jour, et de se repentir ou périr. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne lui obéissent pas par amour. La Bible amplifiée nous éclaire davantage. Quiconque croit en lui, se confie en lui, s'attache à lui, s'en remet à lui. La foi vient de ce qu'on entend la parole, laquelle est dans votre cœur. La foi, c'est entendre Jésus, qui est la parole de Dieu, parler du dedans, et croire que c'est le Seigneur qui vous parle. C'est cela, croire en Jésus. Croire, c'est obéir. L'obéissance conduit au salut. L'obéissance conduit à la justice, qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, 5 George Fox était souvent abordé par des gens qui le suppliaient en affirmant qu'il y était sauvé parce qu'il croyait en Jésus. La réponse de Fox était « Où est la preuve de votre foi ?» Jésus lui-même a dit « La preuve de la foi d'un véritable disciple est de produire beaucoup de fruits » Jean 15, 8. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, quiétude et confiance assurée pour toujours, patience y compris longanimité, fermeté et persévérance, bonté y compris moralité et intégrité, bienveillance, foi, douceur y compris mansuétude et humilité et maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Galates 5, 19, 23 Cela implique de se débarrasser de la nature pécheresse, qui comprend l'immoralité sexuelle y compris l'adultère et la fornication, l'impureté, la convoitise, l'idolâtrie y compris l'avidité, la sorcellerie, la haine, les disputes, la jalousie, la colère, l'ambition, les divisions, les factions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les fêtes et autres choses semblables. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 19, 24 Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matt 7, 19 Abraham est reconnu comme le père de toutes les nations de croyants, parce que la justice lui a été imputée à cause de sa foi. Mais quelle était la preuve de la foi d'Abraham? Il a obéi à la voix de Dieu. Il a cru suffisamment pour être obéissant. Vous pensez peut-être, si j'entendais Dieu m'ordonner de faire quelque chose comme il l'a fait pour Abraham, j'obéirais moi aussi à sa voix. Mais Abraham a marché sur les traces de la foi, de la parole du Seigneur au-dedans. Abraham s'est volontairement exposé au commandement de Dieu. Pour nous exposer au commandement de Dieu, nous devons attendre Dieu en écoutant en silence ses commandements pour nous, puis nous devons obéir à la voix de Dieu, de la parole du Seigneur au-dedans. Quelle est la preuve de ta foi? La foi opérante. C'est la croyance des hypocrites que de croire sans une foi opérante qui cherche les commandements prononcés de Dieu et obéit aux commandements entendus. Nous devons croire suffisamment pour chercher à écouter, entendre et obéir à la voix de Dieu. Tant que vous avez la lumière, croyez en dépendez de « faites confiance à et obéissez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière ». Jésus dit ces choses, puis il se retira pour se cacher d'eux. Jean 12, 36. La lumière, Christ, est donnée à chaque homme qui vient dans le monde. Jean 1, 9. Afin que par la lumière, Christ, tous les hommes puissent croire. Jean 1, 7. Et qu'en demeurant dans la lumière et en obéissant à la lumière, Christ, ils reçoivent le salut pour devenir un enfant de la lumière, un fils de Dieu. Croire en la lumière, c'est accepter comme vrai ce qu'elle vous montre par révélation, puis garder et obéir à ses enseignements, c'est croire en Jésus parce que Jésus est cette lumière. De la parole du Seigneur au-dedans, prête attention à la lumière afin que vous soyez enfants de lumière. Notez la différence infinie entre croire qu'il existe une lumière vs prêter attention. Remarquez, croire et obéir à ce que la lumière vous montre. De même, il y a une différence infinie entre croire que Jésus est le Fils de Dieu vs croire et obéir à ce que vous entendez Jésus, le Fils de Dieu, vous dire ou vous montrer. Et nous voyons ainsi comment un subtil changement d'interprétation a créé l'abîme infini d'apostasie entre la voie large de la chrétienté et la voie étroite du véritable christianisme. Mais les hommes se sont empressés d'embrasser cette erreur doctrinale, en ignorant les nombreuses Écritures qui leur demandent de prendre la croix, de tout abandonner, de perdre sa vie, de se repentir, d'être purifié, d'être pur comme lui est pur, d'être saint comme lui est saint, d'être parfait comme le Père est parfait, d'être juste comme Jésus était juste, d'être miséricordieux comme il est miséricordieux, de marcher comme lui a marché, d'être dans le monde présent comme il était, et d'être délivré de tout péché, car ils aimaient leur vie et ne voulaient pas. Leurs oreilles leur démangeaient, prêtes à croire à la voie large et facile de ne rien faire. Un véritable croyant fait la vérité, ou pratique la vérité, fait ce qui est juste. Il en a fini avec le péché, avec ce qui est mal. Un croyant sort à la lumière, sans crainte pour montrer que ses actes ou œuvres ont été accomplis en Dieu, ou suscités divinement, faits avec l'aide de Dieu, dans la dépendance de Dieu. Jean 3, 21 Demandez-vous maintenant, combien d'œuvres ou d'actes ai-je accompli qui aient été opérés ou suscités par Dieu et avec son aide? Combien d'œuvres ai-je faites que Dieu m'a spécifiquement dit de faire, puis m'a aidé à accomplir, et non pas combien d'œuvres avez-vous faites en espérant plaire à Dieu? La première œuvre pour tous, c'est la repentance, Dieu vous incitant ou vous montrant de quoi vous repentir, puis par votre tristesse vous résolvant à faire mieux repentance. Paul, j'ai déclaré qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu, et faire des œuvres conformes à la repentance. Acte 26, 20 Jésus a dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Luc 13, 3. La repentance demande des efforts de votre part. « Et tout ce que j'aime, je les châtie, reprends discipline, sois donc zélé et repens-toi. » Acte 3, 19 Jésus a encore dit, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Matt 11, 29 Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9, 23 Jésus a dit, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Acte 3, 2, 3 Il veut des œuvres parfaites animées par la foi. Écoutez, Jésus a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Luc 13, 24 L'Évangile de la grâce voudrait vous faire croire que l'effort est inutile. Pourtant Jésus nous a ordonné de nous efforcer, de déployer beaucoup d'efforts ou d'énergie. Paul encore, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, désobéissants et disqualifiés pour toute bonne œuvre. Tite 1, 16 Le faux salut instantané de la chrétienté, obtenu par un appel à l'autel et ou le baptême d'eau, est un mensonge colossal destiné à vous tromper. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gênesis 49, 18 C'est pourquoi je regarderai à l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'entendra. Mic 7, 7 Il est bon qu'un homme espère et attende en silence le salut de l'Éternel. L'âme 3, 26 Vraiment, mon âme attend en silence Dieu, de lui vient mon salut. Psalm 62, 1 Et l'on dira en ce jour-là, voici c'est notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. C'est l'Éternel, nous l'avons attendu, nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons en son salut. Isa 25, 9 Attendre, c'est s'asseoir en silence et écouter, heureux l'homme qui m'écoute, veillant chaque jour à mes portes, attendant au poteau de mes portes. Pro 8, 34, Luc 11, 28 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Dan 12 dit La chrétienté ne croit même pas que la pureté soit possible, ils ne comprennent pas et continuent donc à pécher et agir méchamment. La chrétienté nie que la croix soit nécessaire, et ainsi la chrétienté périt, car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et leur fin est la destruction, leur Dieu, c'est leur ventre appétit, convoitise leur gloire et dans leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 1 Cor 1, 18, Phil 3, 18-19 Jésus nous a dit que nos cœurs sont pleins de mal. Jésus nous a dit que nous devons devenir parfaits. Jésus nous a dit que nous devons prendre chaque jour notre croix du renoncement à soi pour devenir parfaits. Jésus nous a dit que nous devons cesser de pécher sinon nous serons jetés en enfer. Jésus nous a dit que nous devons perdre notre vie égoïste pour trouver la vie avec Dieu. Jésus nous a dit que nous devons tout abandonner pour devenir son disciple. Jésus nous a dit que nous étions aveugles jusqu'à être rendus parfaits par lui. Croyez-vous donc ce que Jésus a dit ? Croyez-vous Jésus ? Si oui, vous tiendrez compte de ces avertissements et vous vous efforcerez d'obéir à ces commandements. Nous vivons dans un état de condamnation, séparés de la vie et de la lumière de Dieu. Si nous croyons en Jésus et continuons à croire en Jésus, nous prendrons les mesures nécessaires pour être délivrés de notre captivité, de notre servitude au péché, ce qui est être sauvé et ce qui préserve notre âme. Si nous ne croyons pas en Jésus, nous demeurons condamnés. Jésus l'a rendu simple en disant « Une seule chose est nécessaire ». Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée, s'asseoir aux pieds de Jésus et entendre sa parole. Luc 10, 39, 42 Entendre sa parole, c'est écouter la parole de Dieu dans votre cœur. Rome 10, 8, 17 C'est une croix pour la volonté d'un homme que de s'asseoir en silence, luttant pour empêcher son esprit de vagabonder. C'est une croix pour la volonté d'un homme d'obéir à ce qui lui est commandé et enseigné par le Saint-Esprit. C'est cette croix dont vous devez vous renoncer vous-même et la prendre chaque jour pour ensuite suivre Jésus. Suivre, c'est obéir. Vous ne pouvez pas être son disciple si vous ne prenez pas votre croix quotidiennement et ne suivez pas ses ordres. Le salut n'est reçu que par ceux qui suivent l'agneau partout où il va, qui obéissent pleinement à la voix du Seigneur, en tout ce qu'il commande. Ne vous découragez pas si vous n'entendez rien pendant un certain temps. Même votre attente vous est comptée, que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous selon notre attente et notre espérance en toi. Psaume 33, 22 Car dès le commencement du monde, on n'a point entendu, on n'a point perçu par l'oreille, on n'a point vu de l'œil un Dieu, hormis toi, qui agisse pour celui qui l'attend. Isa 64, 4 Quiconque est de la vérité entend ma voix. Jean 18, 37 Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27 Écoutez ma voix et obéissez-y, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et marchez entièrement dans les voies que je vous commande. Jer 7, 23 Ainsi, vous voyez que l'écoute de sa voix et le fait de le suivre, lui obéir, sont cruciaux pour votre avenir, cruciaux pour obtenir la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles donnent la vie. Jean 6, 33. Les promesses sont, si vous écoutez et obéissez au Saint-Esprit, Il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir et vous connaîtrez toutes choses. La foi est un voyage, elle a un commencement et une fin. La foi commence lorsque Dieu vous la révèle. Galates 3:23. Écoutez Jésus et lui obéir, c'est Jésus étant l'auteur et le consommateur perfectionneur de votre foi, Hébreux 12:2. Quand vous l'entendez vous parler, Jésus est l'auteur de votre foi en posant le fondement de votre foi sur le roc. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, obéit, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison, creusa profondément et posa solidement les fondations sur le roc, et lorsque la crue survint, le torrent frappa violemment cette maison, mais ne put l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Luc 6, 47-48. Et lorsque vous entendez Jésus vous dire ces paroles, et que vous croyez que c'est lui, le fondement de votre foi est posé sur le roc, un roc si solide que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre lui. Jésus achève votre foi lorsque vous le voyez apporter votre salut. Il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le plein salut à ceux qui l'attendent et l'espèrent. Hébreux 9:28 car la grâce de Dieu qui apporte le salut Tite 2, 11 attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 1, 21 recevant le but de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pie 1, 9, votre foi doit reposer sur votre expérience de la puissance de Dieu, et non sur des paroles prononcées par des hommes ou sur la lecture. La puissance de Dieu est promise pour vous délivrer et vous séparer de vos péchés, ce qui est le salut. Vous êtes sauvés par la foi, et par la foi vos cœurs sont purifiés, mais évidemment au commencement de la foi, vous n'êtes pas purifiés et vous n'êtes pas non plus sauvés. Avant la purification et le salut, votre foi doit être éprouvée dans plusieurs épreuves, au cours desquelles vous devez cruellement souffrir afin d'être purifié du péché. Vous devez combattre pour la foi, grandir dans la foi, édifier votre foi, augmenter dans la foi, parfaire ce qui manque à votre foi, combattre le bon combat de la foi, jusqu'à la victoire, lorsque votre foi est achevée par celui qui l'achève. La foi est un processus et un cheminement dont le but est de voir Christ apporter votre salut, de vous apporter la vie éternelle. Pour mieux comprendre la vie éternelle et le fait de périr dans Jean 3, 16, voir sa note de bas de page dans la Bible en ligne de ce site. Sophisme 2, pas par les œuvres, par la grâce, il n'y a aucune œuvre nécessaire pour aller au ciel. Regardez les versets ci-dessus et voyez comment les faux prophètes arrachent les versets suivants à leur contexte et créent un faux salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. Ce verset est utilisé pour rationaliser l'inaction. Pas par les œuvres, par la grâce, est le cri de ralliement de ceux qui espèrent qu'on ne leur demandera rien d'autre que de dire qu'ils croient en Jésus. Être sauvé, c'est être délivré du péché, être affranchi du péché. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire cela par nos propres efforts. La grâce nous enseigne comment vivre d'une manière juste, sobre et pieuse dans le présent siècle, puis elle nous purifie. Tite 2:11-14. Mais nous devons aller à lui, l'attendre, l'écouter, puis lui obéir pour recevoir le salut apporté par la grâce. Il y a une énorme différence entre les œuvres de la loi qui n'ont aucune valeur et les œuvres d'une foi obéissante au commandement de Dieu. Voir la note de bas de page à Jacques 2, 24 pour comprendre pourquoi les œuvres d'une foi obéissante sont nécessaires afin que votre foi ne soit pas morte, et pourquoi la foi sans œuvre d'obéissance n'est qu'un service des lèvres de la part des hypocrites, dont les cœurs sont encore mauvais et éloignés de Dieu. Si vous croyez vraiment, vous chercherez Dieu, le but même de la vie. Vous chercherez son royaume, au-dedans de vous et autour de vous, et sa justice comme votre priorité la plus élevée dans la vie. Dans ce processus de recherche, vous entendrez d'abord, au-dedans de votre cœur, la parole vivante de Dieu, Christ, vous instruire et vous encourager. Plus tard, la lumière de Dieu en tout homme, Christ, dévoilera les péchés de votre cœur. Et si vous croyez que celui qui vous montre votre péché est Christ, alors, aimant Christ, vous reconnaîtrez votre péché et vous en serez affligé, vous vous repentirez. Avec une repentance sincère, Christ enlèvera alors de votre cœur le désir de péché, une œuvre suscitée par Dieu et accomplie dans la foi, aboutissant à un enlèvement par la grâce. Cette repentance et la purification qui en résulte constituent le processus de purification, décrit dans 1 Jean, cliquez pour lire. C'est un processus répétitif, jusqu'à ce que votre cœur ait été nettoyé de tout péché, jusqu'à ce que vous soyez purifié. Alors il peut maintenant vous rendre parfait dans toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté. Hébreux 13, 11 un nettoyage et une perfection pour toujours, avec l'union qui en résulte, désormais accessible à tous ceux qui vont à lui pour être changés. C'est l'action de la vraie grâce, qui n'est pas le salut au contraire. La grâce apporte le salut en nous apprenant à renoncer à l'impiété et aux convoitises dans la vie repentance, comment vivre une vie pieuse dans le présent siècle, et en nous purifiant au fil du temps, comme Paul le décrit dans Tite 2:11-14, car la grâce de Dieu source de salut est apparue à tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle d'une manière sobre, juste et pieuse, en attendant. Tite 2:11-14 Votre foi en Jésus et la grâce de Dieu doivent aboutir à de bonnes œuvres suscitées par la foi et rendues efficaces par la grâce de Dieu. Dans ses messages aux sept églises, Jésus mentionne à chaque église combien leurs œuvres sont déterminantes. Il veut des œuvres parfaites animées par la foi. « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Acte 3:2-3 Jacques a dit « La foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2:17 Jacques a encore dit « Vous voyez donc qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Jacques 2:24 Paul a dit « Continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens 2:12 Pierre a dit « Quiconque le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Acte 10:35 Paul encore, « J'ai déclaré qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu et faire des œuvres dignes de la repentance. » Acte 26:20 Paul encore, « Recommande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas être hautains, ni de mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir, qu'ils fassent le bien, qu'ils s'enrichissent en bonnes œuvres, qu'ils soient généreux, qu'ils partagent avec les autres. » 1 Tim 6:17-18 Paul a dit « La gloire, l'honneur et la paix sont pour tout homme qui fait le bien. » Romains 2:10 Paul a dit « À ceux qui, par la persévérance dans les bonnes œuvres, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. » Romains 2:7 Après avoir été purifiés, rendus purs de cœur, vous serez poussés par Dieu à accomplir d'autres œuvres pour sa gloire, selon sa volonté. Vous serez conduits vers une vie vertueuse et vous aurez un zèle pour les bonnes œuvres. La grâce et le salut de Dieu sont donnés pour former un peuple consacré aux bonnes œuvres, lui qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité acte sans loi, péché, et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2:14 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions en faisant de bonnes œuvres. Éphésiens 2 dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rende parfait dans toute bonne œuvre afin d'accomplir sa volonté, produisant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13:20-21 Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui étant agréable en toute chose, portant du fruit en toute bonne œuvre. Colossiens dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5:16 Car c'est Dieu qui produit en vous, et la volonté d'agir et l'action comme commandé selon son bon plaisir. Philippiens 2:13 Ainsi donc, si un homme se purifie de ces choses iniquité, absence de loi, péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié et propre pour l'usage du Maître, et préparé pour toute bonne œuvre. 2 Tim 2:21 Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et rendues possibles par Dieu. Jean 3:21 Or, lorsque la lumière apparaîtra au jugement final, vous n'aurez aucune crainte que des œuvres mauvaises soient exposées, au contraire, vous sortirez dans la lumière, sachant que vos œuvres apparaîtront comme ayant été accomplies par Dieu, ou produites par Dieu, ou suscitées et aidées par Dieu. Car quiconque commet des œuvres mauvaises des péchés est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées et réprouvées. Jean 3:20 Mais si vous n'avez pas été purifié dans cette vie avant de mourir, lorsque la lumière, Christ, apparaîtra pour vous juger, vous reculerez de frayeur, sachant que vous avez pratiqué le mal dans votre vie, et craignant les conséquences qui vont bientôt venir, même si vous pensez être chrétien et l'appeler Seigneur. Ainsi, jusqu'à ce que vous ayez été changé par la grâce, en écoutant ces paroles qui vous sont adressées, en leur obéissant, puis en regardant sa lumière, douce et ne reprochant jamais avec dureté, vous montrez les secrets de votre cœur. Jusqu'à ce que vous ayez fait cela, vous craindrez la lumière au jugement, et vous fuirez la lumière pour entrer dans les ténèbres. Sophisme 3, Romains 10:9-10 a été déformé à tort pour dire « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, afin de soutenir un salut imaginaire. » Les guides aveugles de la chrétienté, ayant totalement mal interprété ce verset, enseigne que si vous dites à haute voix « Jésus est Seigneur » et croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts à Jérusalem, alors vous serez sauvés. D'après la parole du Seigneur au-dedans, ils pensent être sauvés en faisant du bruit à propos d'être sauvés. C'est comme croire que quelques paroles magiques prononcées par vous annulent totalement les nombreux avertissements bibliques d'exclusion, les exigences et les conditions qualificatives du salut. Au contraire, Rome 10:9 dit ceci correctement ainsi, « Puisque, si tu confesses ceci, les paroles prononcées par ta bouche appartiennent à Jésus, et si tu crois dans ton cœur que le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'homme croit pour la justice, et c'est de la bouche qu'il confesse pour le salut. » Le contexte de ces versets est de croire la parole dans votre cœur et, lorsque cela est ordonné, de prononcer avec obéissance la parole dans votre bouche, laquelle est la parole de foi que les apôtres prêchaient, Rome 10:8. Et cela, c'est la vraie foi, entendre la parole de Dieu Christ dans votre cœur et obéir à ce que vous avez entendu. Rome 10:17. Confessez Jésus comme votre Seigneur si et quand il vous est ordonné de confesser devant les hommes, Luc 12:8. C'est dire ce qu'on vous dit de dire astérisque car pour qu'il soit votre Seigneur, vous êtes totalement gouverné par les paroles de Jésus que vous entendez au-dedans de votre cœur. Et lorsque vous étiez mort dans vos péchés, vous avez vu Jésus ressuscité dans votre cœur pour être votre Seigneur et Roi souverain, ordonnant vos pensées, vos paroles et vos actes. Cependant, à moins que Jésus ne vous gouverne réellement, et qu'il ne vous ordonne de dire « Jésus est Seigneur », le fait de le dire n'a aucune valeur, comme de nombreuses écritures le prouvent, cliquez pour voir. Astérisque comme Paul a confessé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20 pour être sauvé de l'enfer quand vous mourrez, vous devez faire l'expérience du salut tant que vous êtes encore vivant sur la terre, ce qui signifie être libéré, nettoyé, purifié, délivré, purgé de tous les péchés, même du désir de pécher. Cependant, des millions de guides aveugles dans le christianisme, eux-mêmes péchant encore et donc esclaves du péché, prenant ce verset entièrement hors de son contexte, enseigne que si vous dites à haute voix « Jésus est Seigneur » et croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts à Jérusalem, alors vous serez sauvés de l'enfer. Or, plusieurs écritures prouvent que Jésus rejettera ce qu'il appelle Seigneur parce qu'ils ne lui ont pas obéi ou qu'il péchait encore. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Luc 6:46. Et lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous vous tiendrez dehors et frapperez à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il vous répondra et vous dira « Je ne vous connais pas ni d'où vous êtes ». Luc 12:35. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ? » Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité et péché, absence de loi ou méchanceté. » Matthieu 7:21-23. Ensuite les autres vierges vinrent aussi, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte pour entrer. » Mais il répondit et dit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Matthieu 25:11-12 d'après la parole du Seigneur au-dedans, je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Ils pensent être sauvés en faisant du bruit à propos d'être sauvés. There are millions of blind guide preachers. Es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais cela leur est égal. Ces gens sont loin de moi, vivant dans le péché et enseignant aux autres l'inévitabilité du péché jusqu'à la mort. Ils veulent être des fils, ils reconnaissent l'Écriture, « Celui qui est né de Dieu ne pèche pas, mais il continue allègrement. » Avec la croyance naissante, vous n'êtes évidemment pas sauvé, sauvé signifiant être délivré de tous les péchés. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin dans une foi obéissante, en faisant tous vos efforts, vous serez sauvé. Pour confesser, c'est reconnaître que Jésus est votre Seigneur, qui commande chacune de vos paroles et chacun de vos actes. Cela n'arrive que lorsque vous obéissez à la parole Jésus dans votre cœur et dans votre bouche, qui est la parole de foi prêchée par les apôtres, Rome 10:8. Votre obéissance initiale est la preuve de votre foi en Jésus et de votre soumission à ses commandements comme Seigneur légitime. Et si vous persévérez jusqu'à la fin dans une foi obéissante, mettant tout en œuvre, vous serez sauvés, crucifiés, délivrés de tous les péchés, lavés, purifiés, épurés, perfectionnés, sanctifiés et rendus saints. Par la puissance de Dieu agissant puissamment en vous, la croix intérieure du renoncement à soi n'est pas facile, mais la croix est le seul chemin pour être un disciple, et seuls les disciples font l'expérience du salut. Remarquez que la confession est faite jusqu'au salut par la bouche. C'est reconnaître que vous avez fait l'expérience du salut, vous avez vu le salut apparaître dans votre cœur, vous avez vu Christ apporter votre salut. Cela ne signifie pas que vous devenez sauvé en disant que vous êtes sauvé, ce n'est rien d'autre qu'un rituel païen destiné à créer le salut imaginaire de la chrétienté de faux-semblants. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles. Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, péché, absence de loi ou méchanceté. Matthieu 7:21-23. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Marc 7:6. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les convoitises, la méchanceté, la tromperie, l'absence de frein, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et le souillent. Marc 7:21-23. Et il n'y entrera en aucune manière dans le ciel rien de souillé. 21-27 Faire l'expérience du salut, c'est être témoin de sa pureté, de sa sainteté, de sa perfection, du jugement, être affranchi même du désir de péché, la destruction de l'homme de péché résiduel au-dedans par l'éclat de sa venue, voir son nom écrit dans le livre de vie, l'union avec Christ et le Père, l'entrée dans le royaume des cieux, voir la gloire de Dieu, les voir aussi apparaître en gloire, la communion avec les saints du passé rendus parfaits, et la communion avec le Père et Christ. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même, 1 Jean 5, 10-12. Et celui qui a le Fils a le Père, voir le Fils et le Père régner dans leur cœur l'union. Confesser le Seigneur Jésus, c'est confesser comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Toutefois, les traducteurs n'avaient aucune idée de ce qu'était le véritable évangile. Avoir Jésus ressuscité dans votre cœur pour être votre Seigneur qui vous gouverne, en union avec le Seigneur. Ils ne croyaient pas non plus qu'être sauvé consistait à être libéré et sauvé même de l'attrait du péché, puisqu'ils péchaient manifestement encore. Ne se donnant jamais la peine de comprendre pourquoi leur traduction et leur doctrine est en total conflit avec les nombreuses exclusions, exigences et conditions qualificatives du salut énoncées. Croire dans votre cœur que Dieu ressuscite Jésus, c'est le connaître par votre expérience de Dieu relevant Jésus dans votre cœur, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous présentera avec vous en sa présence. 2 Cor 4:14 Les Corinthiens n'avaient pas encore fait l'expérience de sa résurrection. En lui vous serez aussi circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, par la circoncision accomplie par Christ. Enseveli avec lui dans le baptême de mort, vous serez ressuscité avec lui par votre foi en l'action de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Col 2, 11-12 Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Col 3, 1 Et lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie en union et en communion avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités au passé, pas au futur ensemble avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2, 5-6 Les Éphésiens avaient fait l'expérience de sa résurrection, dans leur cœur, après que vous avez crucifié votre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Pour être délivré de tous les péchés, votre cœur étant purifié, Jésus est ressuscité dans votre cœur tandis que vous êtes transférés dans le royaume de Dieu et entrés en union avec Christ et le Père. La chrétienté croit que tout ce qui précède est impossible parce que toute la chrétienté s'est métamorphosée en Babylone comme la Bible l'avait prédit, et les ministres de la chrétienté sont les guides aveugles contre lesquels Jésus nous a avertis. Jésus a dit que des faux prophètes viendraient en vêtements de brebis. Jean a dit que les antéchrists et les faux apôtres étaient venus et qu'ils étaient sortis du milieu d'eux. Pierre a vu que les faux docteurs étaient venus. Paul et Jude ont vu que les faux apôtres étaient venus, et Paul a averti les frères nuit et jour pendant 3 ans que d'autres allaient venir. Et dans l'Apocalypse, Jean a vu que le monde entier devait suivre les faux prophètes et la fausse église, ce qui arriva peu après. La fausse église est la prostituée de Babylone de l'Apocalypse, montée sur la bête aux nombreux noms 45 000 sectes dans la chrétienté, avec des cornes comme un agneau qui ressemble à la véritable église, mais qui parlent comme un dragon des hommes parlant depuis leurs pensées charnelles, qui sont inimitiés contre Dieu, et leurs opinions vaines issues de leur mauvaise imagination, au lieu de parler des paroles fournies par le Saint-Esprit, comme Jésus et les apôtres. Le fait d'avoir été trompé par la chrétienté ne sera pas accepté comme excuse pour être resté dans votre esclavage au péché, car vous pouvez être sûr de ceci, aucun homme sexuellement immoral, ou impur, ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Car à cause de telles choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5:5 S'y croire jusqu'à la justice, c'est être devenu juste, par l'obéissance jusqu'à la mort de l'esprit égoïste sur la croix, recevant ainsi l'esprit de Christ qui vous gouverne pour vous rendre juste. Vous ne devenez pas juste en disant que Jésus est Seigneur. Comme Jésus l'a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, 46-49. Une croyance aussi insensée chez les soi-disant chrétiens est critiquée par la parole du Seigneur au-dedans, ils pensent être sauvés en faisant du bruit à propos d'être sauvés. Vous ne devenez juste que lorsqu'il contrôle vos paroles et vos actes, alors, et alors seulement, vous pouvez dire en vérité que Jésus est Seigneur de vous, par votre obéissance à ses commandements qui vous gouvernent. Tandis que nous attendons dans la foi l'espérance de la justice, notre obéissance conduit à la justice. Galates 5:5, Romains 6:16. Vous ne faites l'expérience du salut qu'après la mort de votre esprit, égoïste charnel sur la croix intérieure du renoncement à soi, et après avoir reçu suffisamment de l'Esprit de Christ pour contrôler chacune de vos paroles et chacun de vos actes. Le salut consiste à être délivré de tout péché, à avoir été purifié par la grâce de Dieu qui sépare l'homme du péché. Confessez le salut, c'est confesser que vous avez été affranchi de tout péché et que vous avez été témoin de la révélation de Jésus apportant votre salut, qui est la vie éternelle en Dieu. Le salut n'est pas le fait de dire « Jésus est Seigneur » ou de renvoyer à l'Écriture « Il doit être vécu ». Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'après la parole du Seigneur au-dedans, la vie nouvelle est aussi radicalement différente que celle d'un homme qui a vécu sous terre toute sa vie, puis qui remonte soudain à la surface pour voir le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, le vent, les étoiles. Croire seulement n'est pas le salut, comme Paul le souligne 11 fois en s'adressant à des croyants dans les églises, maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru pour la première fois. Romains 13, 11 Continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Phil 2, 12 Car nous sommes sauvés en espérance, mais l'espérance qu'on voit n'est pas l'espérance. Car qui espère ce qu'il voit déjà, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, alors nous l'attendons le salut avec une persévérance patiente. Romains 8, 24-25 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5:8 Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, la croix est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1:18 Pendant que vous êtes sur la croix intérieure du renoncement à soi, vous verrez le péché disparaître lentement de votre vie jusqu'à ce que vous soyez libre du péché. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. 2 Corinthiens 7 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption ». Éphésiens 4:30, Paul parle à des croyants dans l'Église qui n'ont pas encore été rachetés, ce qui est le salut. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, parmi ceux qui sont en train d'être sauvés. 2 Corinthiens 2:15 Nous sommes rendus participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin le commencement de notre assurance. Hébreux 3:14 Car vous avez besoin de persévérance afin d'accomplir la volonté de Dieu, pour qu'ensuite vous receviez la promesse. Hébreux 10:36 Nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour parvenir à la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin. Ainsi vous ne serez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent les promesses. Hébreux 6:11-12 Et Pierre fait écho au même message. Le salut n'est pas simplement croire ou avoir la foi, le salut est plutôt l'aboutissement du parcours obéissant de la foi, et il requiert une croissance. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce dont vous vous réjouissez grandement, quoique vous deviez pour un peu de temps être affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, bien qu'éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir maintenant, mais croyant en lui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et pleine de gloire, recevant la fin de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pétrus 1:5-9 Désirez ardemment, comme des nouveaux-nés, le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez jusqu'au salut. 1 Pétrus 2:2 Même Adolf Hitler était un croyant, il disait que Jésus était son Seigneur et son Sauveur. Vous ne pensez sûrement pas qu'il était sauvé. Les milliers de prêtres catholiques, qui ont lentement torturé et brutalement assassiné 9 millions de personnes parce qu'elles étaient des sorcières au Moyen Âge étaient des croyants et disaient eux aussi que Jésus était Seigneur. Tous étaient baptisés, prenaient la communion, priaient souvent, confessaient Jésus comme Seigneur, lisaient les Écritures, etc. Mais ils n'avaient jamais crucifié leur nature égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, qui détruit la nature pécheresse, jusqu'à l'attrait même du péché. Ils ont donc rationalisé que leur torture et meurtre de masse n'étaient pas du péché. Leur nature égoïste et bestiale participait librement à la torture et à l'exécution de tous ceux qui avaient une opinion religieuse différente. Ils péchaient encore, mais leurs péchés étaient d'une ampleur massive. Nos péchés sont plus faciles à négliger et à excuser lorsque nous sommes indifférents à notre immoralité, nos impuretés, nos convoitises, nos mensonges, nos colères, nos envies, nos jalousies, etc. Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Rome 6, 16. Examinons plusieurs autres versets qui contredisent encore plus directement les versets sur la croyance arrachée à leur contexte. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, péché, absence de loi ou méchanceté. » Matthieu 7:21-23. Il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hébreux 5:9. Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en dépend de ce confie en et obéit à lui, est la vie éternelle. Jean 6:40. À moins d'être purifié, vous ne verrez jamais Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. Lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 Jean 3:2-3. Lui être semblable, c'est être saint, pur, parfait, et seul ceux qui lui ressemblent le verront. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11:26. Vivre en lui exige que vous crucifiez votre nature pécheresse sur la croix. Les œuvres de la nature pécheresse sont immoralité sexuelle, y compris adultère et fornication, impureté, convoitise, idolâtrie, y compris la cupidité, sorcellerie, haine, crêle, jalousie, colère, ambition, division, secte, envie, ivrognerie, débauche, fête, etc. Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates 5:19-21. Vous pouvez être sûr de ceci, aucun homme sexuellement immoral, ou impur, ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de telles choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5, 6. Sophisme 4. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Cité hors contexte, je vous fais donc savoir que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Cor 12, 3 Les faux prophètes vous disent que quiconque prononce les mots « Jésus est Seigneur » est contrôlé par le Saint-Esprit. Mais Jésus contredit cette interprétation en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas, ne pratiquez pas, n'obéissez pas ce que je vous dis ?» Luc 6, 46 Et « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché, l'illégalité ou la méchanceté. Matthieu 7:21, 23 Alors, quel est le vrai sens de « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit ? Cela signifie que personne ne peut dire que Jésus est son Seigneur, gouvernant ses paroles et ses actes comme Seigneur et Maître, sans le Saint-Esprit. À moins qu'il ne dirige tes paroles et tes actes, il n'est pas ton Seigneur. À moins que tu ne lui obéisses, il n'est pas ton Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, alors tu lui obéis. Tu cherches sa direction, tu cherches ses enseignements, tu cherches ses commandements pour toi, tu viens à lui, tu l'écoutes, puis tu lui obéis fidèlement. Écoutez et obéissez à ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Et marchez dans toutes les voies que je vous ai commandées, afin que vous soyez heureux. Gère 3:23 Même Adolf Hitler a dit que Jésus était son Seigneur et Sauveur, mais cela ne lui a certainement servi à rien. Dire les mots « Jésus est Seigneur » n'indique en rien que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit, ni que tu sois sauvé. Jésus a dit « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Marc 7 « Si le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent au Seigneur. » Acte 5 32 « Appelez Dieu Dieu, ne fais pas de lui ton Dieu que tu sers. » Appelez Jésus Seigneur, ne fais pas de lui ton Seigneur et Maître que tu sers. Tu sers celui à qui tu obéis, tu es l'esclave de celui à qui tu obéis, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. » Rome 6 16 en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34 plus sur Jean 3, 16, cité hors contexte avec les versets qui le précèdent. Examinez le verset juste avant le verset « Quiconque croit », 14 comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. 15 afin que quiconque croit en dépende, se confiant, obéit et la vie éternelle. 16 car Dieu a tant aimé le monde tous les hommes qu'il a donné son Fils unique à tous les hommes. Afin que quiconque croit en dépend de ce confiant, obéit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde chaque homme pour condamner le monde, mais afin que le monde chaque homme soit sauvé par lui. Le verset 14 renvoie à l'écriture suivante du voyage des Israélites à travers le désert, cherchant la terre promise, comme ci-dessous. 5 Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme a en horreur ce pain léger sans consistance, sans beaucoup de goût, insatisfaisant pain la manne. Six alors l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et beaucoup de gens d'Israël moururent. Sept le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi une image de serpent brûlant, et place-la sur une perche, et il arrivera que quiconque aura été mordu et la regardera vivra. » 9. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et il arriva que si un serpent avait mordu quelqu'un, lorsqu'il regardait le serpent d'airain sur la perche, il vivait. Nombre 21:5-9 Pendant leur voyage vers la terre promise, ils murmuraient, ils péchaient. Alors le Seigneur envoya parmi eux des serpents brûlants. Le peuple demanda à Moïse de prier pour que le Seigneur les enlève. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur fit. Il dit à Moïse de préparer une image de serpent brûlant et de la mettre sur une perche, afin que tous ceux qui seraient mordus puissent la regarder et ne pas mourir. Comprenez, les serpents ne furent pas retirés, ils étaient toujours mordus tandis qu'ils marchaient dans le désert, cherchant la terre promise, leur salut physique. Ils étaient mordus, mais ils ne mouraient pas, tant qu'ils continuaient à regarder le serpent d'airain sur la perche. Ainsi, tandis que nous cherchons la terre promise, le royaume des cieux qui est en nous et autour de nous, comme notre première priorité dans la vie, nous continuerons à pécher jusqu'à être purs. Une partie de ce voyage est une souffrance surnaturelle. Nous sommes affligés d'épreuves et de tribulations ardentes. Quand ces afflictions surviennent, notre nature égoïste et pécheresse se mettra même en colère et se plaindra. Comme les Israélites, nous croirons probablement avoir été punis injustement par l'eau de l'affliction et le pain de l'adversité, que nous détestons, ainsi nous pécherons contre Dieu. Nous serons tentés d'abandonner, de renoncer à notre voyage. Mais si nous gardons l'œil spirituel fixé sur l'exemple de la souffrance de Jésus sur la croix, et sur le prix qu'il a payé pour nos péchés, nous continuerons notre route et ne mourrons pas spirituellement dans le désert. Et pendant que nous cherchons, notre voyage à travers ce désert spirituel n'est pas seulement sec et affamant, mais il comporte aussi de la souffrance, car nous devons participer à ces souffrances pour parvenir au royaume des cieux, terme de notre voyage. C'est la croix du Christ, vers laquelle nous devons sans cesse regarder, afin d'être conscients de nos souffrances et de les atténuer. Ainsi, tout en péchant et en souffrant dans le désert, si nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu, mort pour nous sur la croix, nous ne périrons pas, mais nous avancerons vers la mort du moi charnel, l'union avec Dieu et l'entrée dans le royaume des cieux, avec la vie éternelle comme fils de Dieu. Ne trouvez pas étrange l'épreuve ardente qui doit vous éprouver. Mais réjouissez-vous, puisque vous participez aux souffrances du Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous soyez aussi dans l'allégresse avec une joie indicible. 1 Pierre 4:12-13 Paul affermissait les âmes des disciples, les avertissant et les exhortant à demeurer fermes dans la foi, disant que c'est par beaucoup d'épreuves et de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14:22 Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. 1 Pétre 2:21 Car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2:11-12 Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin que vous ne viviez plus le reste de votre temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pétre 4:1-2 Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Galates 5:24 Êtes-vous vraiment en Christ? Jésus nous a dit que beaucoup de personnes, persuadées d'être chrétiennes, qui l'appelaient Seigneur, qui faisaient même des miracles en son nom, seraient rejetées par lui au jugement, parce qu'elles pratiquaient encore le mal, elles péchaient encore, et étaient donc encore esclaves du péché. Elles n'étaient manifestement pas en son nom, bien qu'elles disent agir en son nom. Ils n'étaient manifestement pas encore leur Seigneur en pensée, en parole et en acte, bien qu'elles l'appellent Seigneur. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, le péché, l'illégalité ou la méchanceté. » Matthieu 7:22-23 Quiconque commet le péché commet aussi l'illégalité, car le péché est l'illégalité. 1 Jean 3:4 Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8:34 Lorsque vous avez été crucifié, que vous avez reçu le fruit de l'Esprit avec la mesure de foi qui libère, et que Christ guide chacune de vos pensées, paroles et actions, alors et seulement alors, vous êtes en Christ. Jean explique qui est en Christ. Quiconque obéit à ces paroles prononcées obéit aux commandements du Seigneur qui lui sont adressés. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est à cela que nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2:5. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4:12. Remarquez, c'est cela être en Christ et avoir l'amour de Dieu perfectionné en vous. Paul explique aussi qui est en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit. Romains 8:1. Si vous marchez selon les impulsions de la chair, marchant selon votre propre esprit charnel, vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu en vivant selon les impulsions de la chair. Romains 8:8. Marchez dans la vie selon votre propre pensée est pire que d'adorer des idoles, car vous vous êtes fait Dieu. Marcher selon votre propre pensée est exactement ce que Satan a promis à Adam et Ève, qu'ils seraient comme Dieu et connaîtraient le bien et le mal, qu'ils pourraient décider eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais. Leur première décision fut qu'ils étaient nus et que c'était mauvais. Quand vous marchez selon votre propre pensée, vous prenez vos propres décisions, fondées sur vos rationalisations égoïstes au mieux, vous ne pouvez que prendre la décision la moins mauvaise. Sans la direction de Dieu, vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire qui soit sa volonté et réellement bon. Vous ne pouvez pas être encore dans la chair, continuer à pécher, marcher selon la chair, et être en Christ, ce sont des états mutuellement exclusifs. Croire autrement suppose que Christ embrase le péché dans les membres de son corps, suppose qu'il s'unirait en mariage à une personne pécheresse, suppose que la lumière est communion avec les ténèbres, et la justice avec l'injustice. Or, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Galates 5:24. Tant de gens dans la chrétienté prétendent être en Christ, mais n'ont aucune idée que leur prétention est une abomination, car continuer à pécher tout en prétendant faire partie du Christ revient en fait à dire que Christ fait partie du péché. Les non-croyants, qui voient ces gens en Christ pécher et prétendre faire partie du Christ, associent leur comportement hypocrite à Jésus lui-même. Ils sont devenus une pierre d'achoppement pour d'autres qui entendent la vérité sur Jésus et l'espérance de son véritable évangile. De la parole du Seigneur au-dedans, par l'affichage évident de leurs péchés, les chrétiens font blasphémer mon nom parmi les gens. Être en Christ est encore expliqué par Paul. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Cor 5:17. Il ne s'agit pas de s'imaginer une nouvelle créature, il s'agit d'expérimenter la mort de l'ancien et la naissance du nouveau, la mort de la nature pécheresse est l'ancien qui doit partir. Et la mort de l'ancien ne se fait que par la croix du Christ. Participer à la souffrance du Christ, participer à la mort du Christ, participer à l'ensevelissement du Christ, participer à la résurrection du Christ, voilà ce qui est nouveau, tout le reste n'est que présomption et imagination, ou un christianisme de façade. De la parole du Seigneur au-dedans, la vie nouvelle est aussi radicalement différente qu'un homme qui a vécu sous terre toute sa vie, et qui soudain sort à la surface pour voir le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, le vent, les étoiles. Si quelqu'un se tient avec un cœur nouveau, il est une nouvelle créature. Pour en savoir plus sur la souffrance, comme partie nécessaire du parcours chrétien vers le salut, cliquez ici, car la souffrance de la croix est nécessaire pour être purgé des œuvres de la chair. Lesquelles sont ? L'immoralité sexuelle, y compris l'adultère et la fornication, l'impureté, la convoitise, l'idolâtrie, y compris l'avidité, la sorcellerie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, l'ambition, les divisions, les factions, l'envie, l'ivrognerie, les excès, la débauche, et choses semblables, ce dont je vous avertis d'avance, ce dont je vous ai aussi parlé par le passé, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5:19-21. Car vous pouvez en être sûr, aucun homme sexuellement immoral, impur ou cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent. Éphésiens 5:5. Si quelqu'un qui croit vraiment, cherche et se rupt jusqu'à devenir finalement pur et produire le fruit de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur ou mansuétude ou humilité, et maîtrise de soi. Galates 5:22-23. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3:8. En produisant beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples de vrais disciples. Jean 15:8. Si nous croyons réellement en Jésus, nous continuerons à le chercher jusqu'à être purs. La croix du Christ est l'endroit où nous crucifions nos convoitises et nos affections. Tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2, 3 Et quiconque ne porte pas sa propre croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Luc 14, 27 Ce site web a pour but de détruire la fausse espérance, créée en prenant un sous-ensemble des Écritures, comme Jean 3, 16 seul, tout en ignorant l'ensemble, et de vous montrer la véritable espérance. Quand vous pouvez saisir et croire cette véritable espérance, la puissance de Dieu pour vous changer est libérée. Le nom de Jésus, la foi dans le véritable Évangile, et la croix du Christ sont la puissance de Dieu pour faire de vous une créature entièrement nouvelle. Tout le reste est un christianisme de façade, faussement fondé sur la présomption. La chrétienté a rejeté la croix du Christ, manquant ainsi la promesse de Dieu. Prendre un seul verset, ou même un sous-ensemble des Écritures, tout en ignorant l'ensemble des Écritures, est une erreur désastreuse, universelle dans la chrétienté, créant des hypocrites, ceux qui parlent de religiosité tout en marchant dans le péché. Cela tente de transformer la perle de grand prix en une prière du pécheur sans coup et en un simple baptême. Pour sauver ton âme, tu dois perdre ta vie charnelle, car tu ne peux pas plaire à Dieu dans la chair. Pour plus d'informations sur la lumière, voir le mystère de la lumière. Pour plus d'informations sur la production de fruits, voir la preuve d'un vrai disciple produire du fruit. Pour savoir comment recevoir la puissance de Dieu qui convainc et transforme, voir comment bénéficier de la puissance transformatrice de Dieu. Pour lire au sujet de personnes devenues pures et sous le contrôle de Dieu, voir George Fox, William Penn, George Whitehead, James Parnell, Francis Haugill, Edward Burroughs, William Dewsbury, Isaac Pennington et Margaret Fox. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.